We do biz.
We do biz.
Devenons business.
Bienvenue sur cette nouvelle édition de l'émission Passerelle. L'émission Passerelle, comme vous le savez, est dédiée à ces rapports fantastiques entre les grands groupes et les PME. Montrer qu'il y a des choses qui bougent, qui changent, des relations qui se nouent. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir, si tant est, un grand groupe français, PSA, Peugeot Citroën pour les intimes, et plus particulièrement Monsieur Bernard Grandel, qui est avec nous cet après-midi. Bonjour monsieur.
Bonjour Denis Jacquet.
Bienvenue chez nous aujourd'hui. Alors, on va parler de ce constructeur qui a longtemps sorti ses griffes, mais qui là va sortir ses griffes pour aider des PME, en l'occurrence ses fournisseurs. On va voir comment ensemble, mais on va revenir un petit peu avant, comme nous le faisons toujours, sur le parcours de Bernard Grandel. Alors vous commencez, vous me disiez que vous aviez 57 ans, ce qui est en France pratiquement un péché, mais manifestement il y a des exceptions, et tant mieux, puisqu'on travaille beaucoup sur le maintien des seniors dans notre association, c'est un thème qui nous est très cher. Alors, vous avez démarré comme ingénieur, et chez Citroën.
Voilà, alors moi je travaille depuis 31 ans chez PSA Peugeot Citroën. J'ai commencé avec des activités de production dans une usine qui a disparu, était près du pont de Levallois, oui. Et on y fabriquait les deux chevaux. Et moi, j'étais en charge d'un atelier où on fabriquait les moteurs bicylindres qui alimentaient justement la ligne de fabrication, de montage des véhicules de chevaux. Et puis après, j'ai été dans des usines plus modernes, notamment Aulnay, dans le nord de la région parisienne, où je me suis occupé de production et puis de qualité de production.
D'accord.
Et ça pendant 3-4 ans. Ensuite, eh bien, avec l'avantage qu'il y a d'être dans un grand groupe, j'ai changé d'activité et j'ai travaillé en termes de définition produit de marketing avec un boulot extrêmement passionnant qui était d'être chef de produit de la Citroën XM. Mmh. Et puis ensuite, après avoir fait ce travail, j'ai été en expatriation au Japon.
Au Japon.
Où je me suis occupé de gamme produits et également de qualité. Et à l'époque, au Japon, nous vendions des véhicules Citroën. D'une part, à un importateur privé qui était Seibu. Mmh. Et d'autre part, un constructeur automobile qui était Mazda, qui commercialisait les véhicules Citroën dans un de ces quatre réseaux, parce qu'il y avait quatre réseaux commerciaux au Japon pour Mazda, qui s'appelait Yonos, et qui vendait des véhicules Citroën. Donc là, je me suis trouvé dans la position d'être le fournisseur de voitures pour Mazda. Mmh. Et donc Mazda me convoquait de temps en temps, lorsqu'ils avaient des problèmes d'approvisionnement de véhicules, parfois un petit peu en retard, ou des problèmes de qualité, ou des problèmes de gamme commerciale. Et donc, je répondais devant eux. Mmh. Eh bien, et puis, avec des plans d'action, il fallait que je les mette en œuvre rapidement. Et puis, après cette expatriation au Japon, je suis revenu en France. Je me suis occupé de qualité produit en clientèle, en après-vente. Et je me suis occupé également de qualité fournisseur.
Alors, moi, il y a plusieurs points qui m'intéressent. D'abord, j'ai été pratiquement élevé dans une deux chevaux, né dans une deux chevaux. Alors, pour nos plus jeunes auditeurs, ça leur parle forcément, parce que ça, au moins, autant il y a des chansons ou des voitures qu'ils n'ont pas connues et qu'aujourd'hui ils ne connaissent pas, pour les moins de 20 ans, etc. On oui. connaît tout ça, Aznavour. Mais alors, la deux chevaux, c'est quelque chose de mythique. Ça doit faire plaisir d'avoir démarré comme jeune ingénieur sur une voiture qui, aujourd'hui, se balade dans Paris, fait en sorte que les touristes se baladent dans des deux chevaux que vous avez certainement vu, toutes recustomisées, ouvertes, avec des conducteurs habillés à la Gavroche et qui promènent tous les touristes du monde entier dans cette voiture qui est devenue mythique finalement.
Ah oui, c'était une voiture mythique, c'était maintenant une voiture de collection.
Oui.
À l'époque où je travaillais à l'usine de Levallois, donc moi j'étais sur la partie moteur, mais on regardait bien évidemment ce qui sortait des lignes de production. Il avait été lancé les deux chevaux Charleston, c'était une excellente idée, avec notamment des portières qui étaient de couleurs différentes de la caisse.
Violette et noire.
Et donc on avait mis un certain nombre de choses. Il y avait eu des séries spéciales plus amusantes, notamment
les James Bond,
exactement.
Avec des trous dans les portières.
Avec des adhésifs représentant les trous dans les portières. Ben non, on n'allait pas faire des trous dans les voitures après livrées aux clients.
Ouais.
Et les premiers temps, eh bien, il fallait savoir où est-ce qu'on mettait les trous.
Ouais.
Plus exactement, les adhésifs sur les portières.
Ouais.
Et donc après, bah, d'abord, bah, les opérateurs bah, ont mis les trous, bah, ils en ont mis 7-8 par portière. Puis après, les gens des méthodes se sont dit, enfin, c'est pas très sérieux, ça. Ouais. Il faut que les voitures se ressemblent. Hein. Nous avons des ouais. standards de fabrication. Donc, il y a une définition. Donc, on a fait un plan. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est un de mes collègues qui a fait un plan des impacts de balles sur les portières des deux chevaux. Il y en a eu quelques-unes qui sont sorties,
ouais.
je dirais, non conformes ouais. à l'époque.
D'accord. C'était des tirs, des voilà. tirs épars.
Voilà, exactement.
Alors, autre voiture mythique qui, moi, m'a fait rêver très longtemps et qui reste une voiture extraordinaire aujourd'hui, qui est la XM, qui a eu le malheur de tomber en pleine crise pétrolière ensuite et de souffrir de sa consommation, mais qui était une voiture exceptionnelle en termes de puissance et, excusez-moi du terme, mais de gueule, c'était absolument extraordinaire.
Alors oui, c'était une voiture très différenciée. Alors moi, je suis pas objectif ouais. du tout sur cette voiture parce que j'y ai passé quelques années à définir le cahier des charges et un certain nombre de choses. Oui. Moi, j'ai été absolument passionné oui. hein, par ce boulot de définition produit de marketing.
Oui.
Et dans ma carrière, bah, j'ai eu la chance d'avoir des boulots très variés.
Oui.
Et vraiment, et c'est la raison aussi pour laquelle je suis resté, et je reste encore dans cette boîte, dans cette société qui nous permet d'avoir une variété de fonction dans notre carrière, et puis également dans la mission que j'ai depuis janvier 2011 et dont on va parler
exactement
dans peu de temps.
Bon, en tout cas, beau parcours. Alors, si, avant de commencer, si je devais vous dire les une, deux ou trois leçons que vous avez retenues de votre passage au Japon, parce que tous ceux qui sont passés au Japon, et notamment dans l'automobile, sont tous revenus avec un certain nombre de grands principes en tête et de leçons assez fortes sur la qualité, sur la production. Qu'est-ce que vous en avez retenu aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que ce que vous avez connu à l'époque fait toujours l'avantage aujourd'hui du Japon, ou est-ce que c'est des choses sur lesquelles ils ont un peu décroché quand on voit les problèmes qu'ont eu Toyota, notamment ces derniers mois?
Alors, je pense que c'est vraiment l'industrie automobile française hein, qui s'est vraiment très bien rapprochée de ce qu'est l'industrie automobile japonaise.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on a utilisé un certain nombre de leurs principes, notamment le lean manufacturing, c'est-à-dire les pratiques pour faire le juste nécessaire. On a bien compris quelle était la philosophie de leur production, de leur concept d'ingénierie, et on a fait notre propre système de production.
D'accord.
Bien évidemment adapté au groupe PSA Peugeot oui. Citroën, mais en puisant sur eh bien leur qualité et leur rigueur.
D'accord.
Et notamment à travers les standards de production oui. sur le sujet. Oui. Ce qui faisait la grande différence à l'époque, hein, moi je suis revenu du Japon il y a en 96, donc ça fait un certain nombre de temps, donc il y a 15 ans. Eh bien, c'est que les Japonais, à l'époque, ils faisaient ce qu'ils disaient. Maintenant, mmh. nous faisons ce que nous disons.
Mmh.
Mais à l'époque, c'était un petit peu plus difficile. Nous D'accord. étions très français, on
D'accord.
va dire, à l'époque.
Et on dit aujourd'hui que, finalement, l'évolution des standards de production français fait qu'en réalité, quand on regarde des voitures allemandes et françaises, aujourd'hui, les nôtres seraient largement aussi fiables que les voitures allemandes et qu'elles vivent un peu sur un mythe et qu'on a rattrapé aussi ces standards de production.
Alors, pour les voitures allemandes, les voitures allemandes ont une réputation excellente.
Mmh.
Les réputations des voitures se fait sur des décennies.
Ouais.
Hein, et il y a toujours un écart entre l'image mmh. et la réalité.
Mmh.
C'est-à-dire que nous pensons, hein, moi je pense, mais je répète, je suis pas mmh. vraiment objectif parce que je suis passionné par ce qu'on fait, je pense qu'on a rattrapé en termes de fiabilité et de qualité perçue, eh bien, un grand, les constructeurs allemands et japonais. Mais je crois que là-dessus, je répète, oui. je ne suis pas objectif. Moi, j'adore mon métier, je suis un passionné. Et donc, lorsque je dis quelque chose, j'essaye de le prouver, mmh. mais sur ce domaine-là, ben, c'est très difficile de le prouver. Simplement, ce qu'on sait, c'est au niveau des réclamations clients, nous mmh. savons eh bien que nous sommes remontés au niveau des Allemands.
Très bien. Alors, Bernard Grandel, vous avez un titre qui est lié à la mutation des fournisseurs. Alors, expliquez-nous d'abord, est-ce que c'est une démarche récente? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment né de la crise, comme vous me l'expliquez, ou c'était de toute façon déjà une démarche main dans la main que vous aviez avec vos fournisseurs qui était un petit peu exacerbée pendant la crise? Quel constat est née cette volonté de mettre Bernard Grandel sur ce poste avec quatre autres délégués dans trois autres régions, quatre au total, et de marcher pour avoir une vraie filière, comme vous me disiez, sur vos fournisseurs, notamment français? Donc le constat à la base, d'où c'est parti et quel est l'objectif?
D'accord. Alors donc d'abord, c'est donc très récent, depuis janvier 2011, PSA a nommé quatre délégués régionaux, aux mutations fournisseurs, et je suis l'un d'entre eux.
D'accord.
On s'est partagé les régions de France avec mes trois autres collègues. Il faut savoir que l'automobile et la filière automobile se trouvent principalement dans le nord de la France, c'est-à-dire qu'il y a peu d'industrie automobile en PACA, en Midi-Pyrénées, etc. Donc moi, je m'occupe de quatre régions qui sont le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Et puis mes trois autres collègues se partagent les régions Ouest, la région Centre et la région Est.
D'accord.
Donc alors pourquoi nous avons fait ça? Il faut faire d'abord un rapide retour en arrière avec la crise financière de 2008-2009. Oui. Il y a eu d'une part le plan d'aide de l'État à la filière automobile, avec la prime à la casse bien connue, mais aussi les états généraux de l'automobile en janvier 2009, et puis la création de la plateforme de la filière automobile, fin avril 2009, notamment en comparaison de ce qui se faisait avec l'Allemagne. Il y a eu également le prêt de 3 milliards d'euros à chaque constructeur français sur 5 ans, à 6%. Oui. C'était un prêt qui était tout à fait intéressant et profitable à l'époque. Oui. Et nous avons déjà remboursé 2 milliards sur les 3 milliards d'euros. Donc ce qui va permettre, et nous allons rembourser prochainement le troisième et dernier milliard, ce qui va permettre notamment à l'État de pouvoir également réutiliser cet argent à d'autres fins, bien évidemment.
D'accord. Donc le constat, c'est la fragilité des fournisseurs liés à la crise financière et votre volonté de les aider, parce que vous en avez réciproquement, vos fournisseurs ont besoin de vous, mais vous avez aussi besoin d'eux.
Tout à fait. Donc on a déjà œuvré pour aider les fournisseurs de la filière automobile. Donc d'une part, lors de la crise et notamment en 2009-2010, on s'est trouvé face à nos propres fournisseurs, à un certain nombre de fournisseurs qui étaient en grande difficulté financière. Et nous avons dépensé 280 millions d'euros en 2009, début 2010, pour les aider. D'accord. Nous avons aussi engagé 200 millions d'euros dans un fonds de modernisation des équipementiers de l'automobile.
D'accord.
C'est un fonds d'investissement qui est de 600 millions d'euros.
D'accord.
200 millions d'euros apportés par PSA, 200 millions d'euros apportés par Renault et 200 millions d'euros apportés par le FSI. Maintenant, ce qu'on veut, c'est aider la filière automobile afin de la renforcer et la rendre pérenne. Alors, pourquoi est-ce que nous voulons ça? Tout simplement parce que c'est pour nous une nécessité qu'il y ait cette filière automobile en France. Un PSA est extrêmement présent en France, tant au niveau de la production qu'au niveau de la recherche et développement. C'est-à-dire dans le monde, nous avons 6 centres de recherche et de développement. Il y en a un qui se trouve en Amérique du Sud, un autre qui se trouve en Chine, et les 4 autres sont en France.
D'accord.
Il y en a 3 qui sont dans la région parisienne, avec Vélizy pour les véhicules, La Garenne pour les moteurs, et puis Poissy. Et puis le quatrième, il se trouve à Sochaux, en Franche-Comté. Et puis nous avons également des usines de production qui représentent en France 40% de la production de nos véhicules se situe en France. Et ce qui s'est beaucoup moins, c'est qu'il y a 80% de la production des moteurs et 85% de la production des BV, des boîtes de vitesse, qui se situent en France. Et les productions de ces moteurs et de ces boîtes de vitesse se situent dans les régions, dans les deux des régions dont je m'occupe, qui sont le Nord-Pas-de-Calais et la Lorraine.
D'accord.
Et donc ça, c'est quelque chose qui est un peu moins connu, hein, puisqu'on parle principalement des véhicules terminés, mais tout de même relativement peu des organes mécaniques que sont les boîtes de vitesse et les moteurs. D'accord. Donc, en fait, PSA souhaite conserver ce très fort ancrage en France et a donc besoin d'une filière automobile forte en France et donc solide.
D'accord. Alors, forte et solide, pour quelques petites questions très rapides, du coup, on va jouer un peu au ping-pong pendant quelques minutes. Question rapide, ça veut dire que aujourd'hui, les fournisseurs, c'est une aide essentiellement financière, j'allais dire de circonstance, ou est-ce que c'est pour restructurer leurs fonds propres, changer leur outil de production, améliorer justement la productivité et faire en sorte qu'ils soient compétitifs, ou est-ce que c'était vraiment pour blesser les plaies de la crise financière?
Alors, là, ce que nous souhaitons faire, c'est vraiment déployer la compétitivité chez ses fournisseurs, parce que pour survivre, il faut être compétitif. Également, il faut pouvoir travailler sur l'innovation, c'est-à-dire qu'il est nécessaire que ces entreprises innovent, aussi également pour qu'elles soient compétitives. Et puis, il faut également qu'elles aient une structure financière saine pour pouvoir perdurer. Donc, ce n'est pas uniquement le côté financier, mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un tissu industriel fort en France.
D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'un fournisseur participe avec vous au process d'innovation? Ils y sont associés d'une façon ou d'une autre, ou finalement c'est des secrets de fabrique que vous partagez avec personne, mais ou éventuellement avec certains des fournisseurs?
Alors, d'abord, il faut bien voir que l'industrie automobile, en fait, dans un véhicule, vous avez à peu près 75% de valeur ajoutée qui vient de fournisseurs.
D'accord.
Donc, nous faisons un certain nombre de pièces essentielles, du type moteur, boîte de vitesse. Nous assemblons un certain nombre, tout l'ensemble, et donc nous assurons la synthèse des véhicules ainsi produits. Mais ça veut dire qu'il nous est absolument nécessaire de travailler avec nos fournisseurs sur l'innovation, la conception. Et ce que nous essayons de faire avec la relation avec nos fournisseurs, c'est d'avoir un avantage concurrentiel durable.
D'accord.
Et ça, c'est sur les quatre axes, d'ailleurs, qui sont les mêmes que pour nous. C'est-à-dire que nous voulons être un groupe avec une forte efficacité opérationnelle. Bien, nous souhaitons qu'il soit de même pour nos fournisseurs. Nous voulons avoir une dimension globale, internationale. Oui. Je rappelle simplement quelques chiffres. Le marché automobile au niveau mondial est en croissance.
Oui.
C'est-à-dire qu'au niveau mondial, actuellement, en 2010, on a produit de l'ordre de 68 millions de véhicules légers, particuliers ou utilitaires. On pense qu'en 2015, il y en aura 85, et en 2020, il y en aura 100 millions de véhicules légers dans le monde. Mais la croissance, elle va se faire en dehors de l'Europe. Et donc principalement en Asie, avec bien évidemment le marché chinois, mais également le marché indien.
Brésilien peut-être.
Alors l'Amérique du Sud, également la Russie, donc là on part de l'Asie. Mais donc tous ces marchés qui sont en croissance, ce n'est pas le marché européen qui restera globalement stable.
Est-ce que ça veut dire que c'est une de mes dernières questions, que vous emmenez avec vous vos fournisseurs à l'international pour qu'eux-mêmes deviennent globaux?
Voilà, exactement. C'est ce qu'on souhaite, c'est qu'on propose à nos fournisseurs de nous accompagner et de s'implanter à l'international, là où se trouve la croissance. Donc ce qu'on veut, c'est une efficacité opérationnelle, une dimension globale, un coup d'avance, c'est-à-dire l'innovation, c'est-à-dire qu'on a besoin, pour que ces entreprises et ces fournisseurs perdurent, qu'ils aient des capacités d'innovation. Et puis, cet avantage concurrentiel doit être durable, et nos relations avec les fournisseurs doivent refléter les valeurs du groupe, en commençant par le respect et la responsabilité. Parfait. Et à cet effet, sur ce dernier point, eh bien, nous avons un code de performance et de bonne pratique qui a été instauré avec la plateforme de la filière automobile, qui a été créée mi-2009, qui fait en sorte que bien nous avons des règles, on va dire, de bonne conduite vis-à-vis de nos fournisseurs et eux-mêmes vis-à-vis de nous.
Très bien. Bernard Grandel, merci. Alors, c'était pas... J'avoue que c'est un exercice difficile en 18 minutes d'expliquer une politique qui va durer jusqu'en 2015-2020 pour maintenir une filière très forte en France, avec un effort dont on l'a compris qui mêle l'État, les grandes entreprises automobiles. Merci de nous avoir accordé ce temps aujourd'hui pour Passerelle PME et à bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Et moi je vous donne rendez-vous bien très rapidement pour une prochaine émission de Passerelle PME. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très vite. Au revoir.